Galina Elbaz nous parle de ses engagements tant qu'avocate et membre du collectif Les Citadelles, qui prône un féminisme universel, et de son combat contre la montée de l'antisémitisme en France, qui touche des secteurs d'habitude relativement épargnés, comme la culture et l'éducation. Elle est à votre micro, ma chère Lucie. On écoute cette rencontre.
Galina Elbaz, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes vice-présidente de la LICRA et vous, tout d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de vos engagements, de la raison qui vous avait poussé à vous emparer de ces sujets sensibles qui sont la lutte contre l'antisémitisme et le combat pour un féminisme pluraliste et universel?
Alors, la lutte contre l'antisémitisme et tous les racismes, c'est un combat que je mène depuis une vingtaine d'années en tant qu'avocate. Pour la LICRA en particulier, depuis une dizaine d'années, et pour la LICRA parce que justement c'est l'une des rares associations françaises qui a un combat universaliste justement, qui combat tous les racismes et aussi l'antisémitisme. Malheureusement, depuis une quinzaine d'années en France, on atteint chaque année un pic d'actes et de propos antisémites qu'on croyait inégalés et qui chaque année progressent. Pour diverses raisons qu'on pourra détailler, la montée des radicalités, des séparatismes, d'un discours islamiste, un antisémitisme qui est toujours très présent à l'extrême droite. Mais hélas, depuis le 7 octobre, il y a un phénomène grandissant et très inquiétant parce que en France, on a historiquement de tout temps des actes antisémites élevés, comme je l'ai indiqué, mais depuis six mois, depuis le pogrom du 7 octobre en Israël, les actes dépassent l'entendement. On est à plus de 1000% d'actes antisémites sur le dernier trimestre 2023. Et sur l'année, à plus de 300% des actes par rapport à un rythme de croisière habituel. Alors voilà les raisons de mon engagement. Particulièrement sur la question des femmes et du féminisme. Alors je précise, je suis pas la fondatrice des Citadelles, c'est Arlette Zilberg, une féministe historique que j'ai la chance d'avoir pour amie, qui m'a sollicité sur ces projets. Elle est fondatrice de ce collectif d'associations féministes et hélas, à la faveur des événements du 7 octobre où on a vu devant les caméras du monde entier des femmes israéliennes se faire enlever et où on a vu afficher à la face du monde ces femmes israéliennes qui avaient été violentées et violentées sexuellement. On peut pas en douter. Je pense à cette jeune Nahama Levi qu'on voyait avec le jogging ensanglanté et se faire rapter par les terroristes du Hamas. Eh bien, nous avons tout de suite lancé l'alerte avec ce collectif et d'autres associations pour faire reconnaître effectivement les viols et les violences sexuelles qui ont été commis sur les femmes israéliennes le 7 octobre. Et c'est comme ça que se sont mis en place diverses actions dont j'ai pu faire partie. Alors, les défis principaux, c'est les concurrences antiracistes. Puisque pour moi, le combat antiraciste, il est unitaire. Je me suis jamais posé la question en tant que femme, personnellement d'origine juive, de la couleur de peau ou de l'origine des personnes que je défendais. Je défendais un combat. Pendant des années, effectivement, j'ai défendu toutes les victimes de tous les racismes. Et j'ai même envie de dire que j'ai pas particulièrement défendu les causes juives. Et hélas, j'ai eu à regretter ces dernières années une communautarisation du combat. Beaucoup de personnes sont victimes de racisme en France et de discrimination dans les populations d'origine arabo-maghrébine ou des personnes issues de l'Afrique subsaharienne dont les parents sont issus de l'immigration et qui vivent en France. Et elles ont souvent, en tant que victimes, peut-être, à tort, il me semble, un réflexe ces dernières années d'aller chercher une défense dans leur propre communauté. Et j'ai vu s'installer des défiances que j'aurais pas imaginées il y a 10, 15 ans. Donc ça, c'est une chose. Et dans la vague de ce qui s'est passé le 7 octobre et la résurgence de l'antisémitisme en France, cette communautarisation du combat antiracisme s'est aggravée. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai senti les Français juifs seuls. Seul à mener un combat contre l'antisémitisme qu'ils vivent. Et moi qui ai toujours combattu tous les racismes, je vois que y a quand même une forme de déni de ce qui se passe. Et dans les prétoires, on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'il y a des associations juives qui viennent se constituer partie civile pour les propos à caractère antisémite, pour les violences à caractère antisémite, mais on ne retrouve quasiment plus les autres associations qui défendaient jusque-là tous les racismes.
Et justement, j'aimerais rebondir sur un fait d'actualité sur lequel vous avez réagi également sur les réseaux sociaux, c'est le fait que la compagnie israélienne Batsheva Dance annule sa venue en France pour des raisons de sécurité. Quelle est votre analyse de cette montée de l'antisémitisme qui justement impacte sur le milieu de la culture et notre vie de tous les jours finalement? Comment on analyse cette montée de l'antisémitisme, cette levée de bouclier aujourd'hui?
Alors longtemps, des personnes très impliquées dans la question de la paix au Proche-Orient, et c'est tout à fait appréciable, nous ont dit que les opérations de boycott des produits israéliens étaient relevées de la liberté d'expression, ce que je peux entendre, et de la critique de la politique de l'État israélien, ce qui peut être entendu. Même si, à titre personnel, je considère que le boycott d'un État et de ses ressortissants est de la discrimination et non pas de la liberté d'expression. Jusqu'ici, les militants du boycott indiquaient que ça n'engendrerait pas, selon eux, autre chose que de la critique politique et que ça ne touchait pas les personnes. Et là, on se rend compte, avec le boycott de la culture, des danseurs, comme d'une compagnie comme Batsheva Dance Company, qu'en réalité, le BDS, ce n'est pas qu'un mouvement de boycott des objets ou de critique d'une politique. Ça a des conséquences directes, ce que mon association et moi-même, nous n'avons cessé de dire, sur les personnes. Le boycott des biens entraîne nécessairement toujours le boycott des personnes, et c'est une discrimination qui a un caractère racial et antisémite. Donc, on ne peut pas séparer le boycott des biens, qu'ils soient culturels ou des objets ou des produits de supermarché, de la discrimination à l'égard des personnes. Quand on milite pour retirer des oranges d'Israël dans un rayon de supermarché, évidemment, on touche les personnes derrière, parce qu'on touche les consommateurs, on touche les consommateurs qui peuvent être des Français juifs ou pas d'ailleurs. Et je pense que c'est très dangereux de penser qu'une opération de boycott est inoffensive. Elle n'est jamais inoffensive et cet événement que vous citez sur l'annulation du spectacle de Batsheva Dance Company pour des raisons de sécurité, hein, c'est ce que dit Oadna Harine, marque vraiment je pense, un échelon de plus dans ce que nous vivons en France, c'est-à-dire que, bon là ça concerne des Israéliens, mais on voit bien le glissement, on a en France aussi des étudiants juifs, peut-être l'avez-vous, en avez-vous entendu parler, mais on a eu
à Sciences
des
Po,
étudiants
en
juifs qui ont
effet.
été boycottés d'amphithéâtres dans des universités. Donc en fait, quand le boycott, c'est pas que le boycott des idées. Là, c'est la contamination intellectuelle de l'idée de boycott qui, moi, me fait peur. C'est que derrière les objets, il y a les êtres humains. Et c'est ce que ça dit de ce spectacle, hein. C'est ce qu'on vit maintenant, hein, des boycotts d'étudiants. Je vais plaider bientôt une affaire qui concerne une famille qui revenait à l'aéroport, une famille juive, et qu'on a refusé de prendre dans un taxi. Parce que ils venaient d'Israël et que le chauffeur a demandé de quelle provenance ils venaient. Donc, Voilà, je pense que c'est une illustration. Le boycott, c'est un premier pas ou un pas direct vers la discrimination des personnes.
La compagnie israélienne a annulé en fait sa venue sans pression, en
oui,
fait.
Oui, tout à fait. En réalité, oui, non, mais ils annulent spontanément, oui. On
mais pour des raisons de sécurité, BDS, ce qui pose quand même problème et question. Et alors, maintenant, je voudrais parler d'autre chose, c'est des manières peut-être de retourner cette situation, enfin de combattre en fait cette montée de l'antisémitisme et cette montée de toute manière de la polarisation en général. Comment pensez-vous que l'éducation et la sensibilisation peuvent contribuer à cette lutte et à vos combats en règle générale ?
Alors, il faut revenir, effectivement, je crois qu'on a une vraie bataille culturelle à mener, ça c'est certain. Dans l'enseignement supérieur, je crois qu'il y a tout à reconstruire. C'est un vaste sujet. Enfin, voilà, moi, évidemment que je crois en la culture, dans le savoir, dans l'éducation, dans la force de notre système éducatif, culturel, à tous les niveaux. Donc là, il y a une déroute absolue. Hein. Je vous citais Sciences Po, c'est une institution qui a peut-être pas au niveau de sa direction trahi, parce que c'est pas la direction qui boycotte les étudiants juifs, mais en réalité, il y a eu une contamination du débat avec des propos violent, virulent, donc il faut effectivement que l'enseignement supérieur reprenne la main sur l'universalisme. Je crois que la jeunesse, aujourd'hui, elle est un petit peu en manque de repères, et remettre dans les programmes à tous les niveaux, hein, la question de l'universalisme, de l'égalité et de la non-discrimination, c'est essentiel. Et puis surtout, la nécessité de s'écouter les uns les autres et de se contredire, parce que ce qu'on apprend en réalité, notamment de la polémique Sciences Po, c'est que ce que ça dit quand on interdit finalement à une étudiante juive de rentrer dans un amphithéâtre pour donner la controverse sur ce qui se passe au Proche-Orient, parce que c'était un débat sur la situation et la guerre Israël-Hamas, eh bien, ça veut dire qu'on a une jeunesse qui ne supporte plus le débat ou la contradiction. Et là, c'est ce qui est inquiétant, parce que, a priori, le libre débat, c'est pas de penser tous pareil, c'est justement de pouvoir sortir grandi d'un débat où on nous a donné une contradiction et qui nous a peut-être pas convaincus ou qui a conforté notre thèse, mais en tout cas d'avoir écouté la thèse contraire à la nôtre. Et là, j'ai l'impression que le principe même du débat contradictoire, il est complètement anéanti. Et il faut remettre de la controverse et il faut remettre surtout de la capacité à s'écouter. Et je crois que là, il y a quand même eu un gros retour en arrière. Et c'est des associations comme la mienne, on peut y contribuer. Hein. On a décidé effectivement de prendre le débat à bras le corps et puis de rentrer dans, enfin, si on nous y invite, de pouvoir rentrer dans les universités également.
Eh bien, Galinda Elba, je vous remercie pour cet éclairage. Vous êtes vice-présidente de la LICRA et donc membre du collectif Les Citadelles. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Judaïka.
Merci beaucoup à vous.